Les séminaires du Collège de France.
Commençons. Pour ce premier séminaire de 2024, on a le plaisir d'accueillir Viat Dang, qui est à Sorbonne Université, et qui va parler donc, de séries de points carrés et corps convexes sur des tors. Je te remercie.
Bonjour à toutes et à toutes. Donc, tout d'abord, merci à Annalini pour l'invitation à donner un séminaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail en collaboration avec Yannick Bontonneau, Mathieu Léoto et Gabriel Rivière. Donc, je vais commencer mon exposé par tout simplement motiver la raison pour laquelle on a été amené, donc au début Gabriel et moi-même, puis après rejoint par différents co-auteurs au fur et à mesure que le nombre de papiers avançait, pourquoi on est amené à étudier des séries de points carrés. C'est parti d'un malentendu, ce travail, parce que l'idée de départ, c'était que les séries de points carrés pourraient donner des nouvelles constructions de ce qu'on appelle des mesures cristallines. Donc je vais commencer par vous parler de mesures cristallines. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mesure cristalline? Le plus simple, c'est de regarder cet exemple suivant. Donc si vous considérez une somme d'exponentielle de EIKS, on sait que cette somme d'exponentielle, elle converge au sens des distributions. Donc vous avez votre somme d'exponentielle là. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait là? Somme d'exponentielle, elle converge au sens des distributions vers une somme de masse de Dirac portée par les multiples entiers de 2π. Et donc si vous regardez cette expression et que vous faites la transformée de Fourier des deux côtés, vous pouvez en déduire que la transformée de Fourier, elle envoie le peigne de Dirac porté par le réseau de pas A vers un peigne de Dirac qui est porté par un réseau de pas 2π sur A. Ce que je résume ici. Et donc ça, c'est une formulation de ce qu'on appelle la formule sommatoire de Poisson. Donc le peigne de Dirac qui satisfait à cette formule sommatoire de Poisson, eh bien c'est une mesure cristalline. Ensuite, motivé par des travaux de Guinan, donc de 1959, et puis récemment, ces travaux ont été revisités par Yves Meyer en 2016, les gens se sont intéressés à chercher s'il y a d'autres exemples de mesures cristallines que le peigne de Dirac. D'accord ? C'est exceptionnel qu'une somme de delta, qu'on fasse la transformée de Fourier, fasse quelque chose d'aussi localisé qu'une autre somme de delta, c'est quelque chose de miraculeux, en tout cas que je trouve miraculeuse. Et donc maintenant, je peux vous énoncer la définition d'une mesure cristalline, mais bon, c'est très simple, vous vous en doutez. Comment ça va marcher? Une mesure cristalline, c'est une mesure complexe, telle que mu et mu chapeau sont à support localement fini. Et on peut aussi généraliser un tout petit peu en disant qu'une distribution cristalline, c'est la même chose, sauf que mu et mu chapeau ont le droit d'être des distributions tempérées. Donc je vous donne un petit exemple de distribution cristalline. Vous prenez le peigne de Dirac, vous faites sa dérivée. Et donc ça va être une distribution cristalline. Et ici, là, je vous ai fait un petit dessin. Vous imaginez que vous avez une somme de delta, mais cette fois-ci, ce n'est plus un peigne, ce n'est pas forcément sur un réseau, ce n'est pas forcément homogène, on fait Fourier, et on a quelque chose aussi qui est de support localement fini. D'accord ? Et là, bien sûr, une mesure cristalline, elle sera dite exotique si le support de mu n'est pas une union finie de réseau. Parce que si c'est une union finie de réseau, eh bien, je crois, mais ça je ne suis pas entièrement sûr, mais ça se ramène un peu à la formule de Poisson quand vous superposez des peignes de Dirac, quand vous les modulez. Et donc le défi, c'est de chercher aussi de caractériser, de classifier des mesures cristallines exotiques ou bien des distributions cristallines exotiques. Donc ici, je vous ai donné une liste Oui, il manque certainement beaucoup de noms, mais j'ai donné une petite liste partielle de gens qui ont contribué à la recherche de ces mesures cristallines exotiques. Et au début, on pensait qu'il serait possible de chercher des mesures cristallines telles que le support de la mesure, ça serait le spectre de longueur d'un certain système dynamique. Voilà, c'était le premier objectif. Et après, je vais vous expliquer pourquoi on aimerait voilà, chercher à... Parce qu'en fait, dans le cas de la formule de Poisson, le réseau, c'est en fait le spectre de longueur d'un système dynamique très simple, qui est le flot géodésique sur le cercle. Mais je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, donc c'est cette raison qui nous amène à étudier en fait les séries de Poincaré qui ont une forme, une série de Poincaré, ça a une forme extrêmement proche de cette somme d'exponentielles que vous avez vue dans la formule sommatoire de Poisson dans le premier transparent. Donc juste, je vous explique voilà, les séries de Poincaré un peu version bande dessinée. Donc vous avez un objet géométrique, par exemple une surface à courbure négative ou un tore, ou bien un graphe métrique, hein, si on veut être en dimension 1. Ensuite, vous regardez, par exemple, deux points sur votre surface à courbure négative, et vous considérez l'ensemble des arcs géodésiques gamma qui vont du point C1 au point C2. Ou par exemple, ici, vous considérez deux courbes fermées qui satisfaient des conditions assez raisonnables, deux géodésiques simples, par exemple, et on regarde tous les arcs géodésiques qui partent de C1 qui arrivent à C2 et qui sont perpendiculaires. Hein, c'est ce qu'on appelle les orthogéodésiques. Dans le cas du tore, c'est pareil, on va le voir plus tard, on se donne par exemple deux convexes et on regarde les perpendiculaires communes aux deux convexes. Dans le cas d'un graphe métrique, je vous laisse imaginer ce qu'il faut regarder, il faut prendre deux sommets, il faut regarder tous les arcs qui vont de C1 vers C2. Et quand vous avez comme ça un problème d'énumération, hein, vous regardez les arcs gamma qui satisfont une certaine condition d'incidence, ce qui est naturel, c'est de former une série de Dirichlet qui va être la série génératrice de votre problème de comptage. Donc la forme générale d'une série de Poincaré, en tout cas dans cet exposé, c'est un peu naïf, mais voilà, c'est une façon simple d'y penser, c'est qu'on va sommer sur tous les gamma qui vérifient la condition d'incidence exponentielle de moins SL gamma. Donc vous voyez, on va noter la similitude avec l'aspect au début, dans le premier transparent, on avait ça. Et ça ressemble presque, sauf qu'ici, c'est une exponentielle avec un facteur imaginaire dans l'exponentielle. Et ici, S, a priori, au début, on va le prendre réel positif pour que la série elle ait une chance de converger. OK. Donc, bon, si vous voulez une définition plus sérieuse, par exemple, il y a un joli article de Survol de Frédéric Paulin, où en fait, il explique que c'est même beaucoup plus général que ma définition avec la série Dirichlet. En fait, vous avez un espace sur lequel il y a un groupe qui agit, et une série de Poincaré, c'est vous prenez une fonction et d'une certaine façon, vous la sommez sur une orbite. Ça, c'est une définition, quoi, en tout cas, c'est celle qu'il prend. Et dans les exemples que je vous ai donnés, je pense qu'il est possible de tout reformuler en termes d'un groupe qui agit sur un espace et vous regardez des sommes d'orbites, des sommes sur une orbite de fonctions sur cet espace. D'accord ? Voilà. Et maintenant, je voudrais juste, voilà, comment vous motiver, pourquoi la formule de Poisson, elle a un peu cette saveur de série de Poincaré, hein, juste pour vous motiver l'analogie pour laquelle, voilà, la raison pour laquelle au début on s'est intéressé à l'étude de tels objets, c'est qu'en fait, comme Nalini elle en a parlé dans son cours, en fait, on va chercher une sorte de formule de trace, en fait. Et une formule de trace, c'est une formule qui relie d'un côté du spectre et d'autre côté des invariants géométriques. La star des formules de trace, la toute première, c'est la formule de Poisson. Et donc, laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Donc, vous regardez le cercle de rayon 2π. Le champ de vecteur qui génère le flot sur le cercle, c'est dθ. D'accord ? Donc, ça fait tourner sur le cercle. Et on sait que le champ de vecteur dθ, son spectre, quoi, si votre cercle il est de rayon 2π, son spectre, c'est iz. Et les fonctions propres, on sait que c'est les exponentiels. Et donc, ce qu'on va faire pour voir l'analogie entre la formule de Poisson et ces trucs de plus dynamique de série de points carrés, vous allez prendre un point sur le cercle, vous allez lui associer une fonction delta portée par le point. Ensuite, vous allez pousser le point par le flot d'θ. Et ensuite, après, vous allez calculer, un peu comme ce que Naliné l'a fait en cours, là, une sorte de corrélation dynamique. Vous allez pousser ça par le flot, puis vous allez apparier ça avec une autre fonction delta. D'accord ? Et donc, si vous faites le calcul, donc j'ai fait un peu le calcul juste pour illustrer. Bon, c'est pas important les détails, mais on s'assoit, on se met à calculer. Donc on regarde, mais c'est très simple, hein, quand vous poussez la fonction delta par le flot, ça fait juste translater la fonction delta. Eh bien, on fait apparaître d'un côté des sommes de delta sur un réseau qui est légèrement shifté, et de l'autre côté, en utilisant le fait que le spectre du générateur, c'est Iz, on fait apparaître une somme d'exponentielles. Donc d'un côté, vous avez un côté géométrique, et de l'autre côté, vous avez un côté spectral, et ça, ce n'est rien d'autre que la formule de Poisson, mais légèrement déphasée, dont on est parti. Donc c'est un peu ça les raisons qui nous ont motivés au début à étudier les séries de points carrés. Et malheureusement, en fait, on a été un peu en même temps déçus et contents. Donc on n'a pas réussi à trouver des mesures cristallines nouvelles. Mais en fait, on est tombé sur d'autres objets en étudiant les séries de points carrés pour elles-mêmes. Donc voilà, le premier résultat qu'on a trouvé, donc c'était en collaboration avec Gabriel Rivière, donc il y a 4 ans. Comme je vous ai montré tout à l'heure, donc le cadre, c'est une surface à courbure négative. On regarde les arcs géodésiques qui vont de C1 vers C2. Et on considère la série de points carrés, donc je vais la réécrire au tableau si, au cas où elle n'est pas sur le prochain transparent. Et ce qu'on montre, c'est que, vous voyez, déjà, c'est pas évident que cette série, elle est un prolongement méromorphe au plan complexe, d'accord ? Parce que on voit que si les parties réelles de S sont négatives, c'est une série qui est divergente. Donc la première chose à faire, un peu comme pour la fonction zeta de Riemann, c'est, pour étudier un tel objet, c'est d'abord de montrer le prolongement éventuellement méromorphe. Et ensuite, on s'est intéressé à des valeurs spéciales de la fonction de zeta. Donc le résultat qu'on a montré, c'est que 1, la fonction de zeta se prolonge à tout le plan complexe, et 2, elle a une valeur spéciale en 0, donc elle n'a pas de pôle. Un peu comme pour zeta de Riemann, il y a une valeur spéciale en 0 qui est -1,5. Et la valeur en 0, c'est 1 sur la caractéristique de l'air, éventuellement -1 si les points C1 et C2 y coïncident. Ce que j'ai représenté par Kronecker C1, C2. Et en fait, ces résultats qu'on peut montrer sur les surfaces, ils ont des analogies dans un monde plus discret, mais qui est pour moi dur à appréhender. Mais récemment, donc Dang et Memeti, en fait, ils ont montré un résultat similaire. Donc, je vais essayer de faire l'analogie. Donc, ce qui joue le rôle de la surface, vous allez le construire de la façon suivante. Vous partez de la droite projective de Berkovitch. Donc, la définition, je ne sais pas, mais c'est une sorte d'arbre infini ramifié. Et ensuite, vous avez un groupe de Schottky qui agit sur cette droite projective de Berkovitch. Et ce qui va jouer le rôle de la surface, c'est qu'on prend cette droite projective, on enlève un ensemble limite, l'ensemble limite associé au groupe de Schottky, et on quotiente par gamma. Donc ça joue le rôle de la surface. Le nombre de générateurs de votre groupe de Schottky, ça joue le rôle du genre de la surface, donc le nombre de trous qu'il y a dans votre surface. Et c'est pareil, on considère une série de points carrés et on montre que la valeur en 0, c'est 1 sur 1 moins g. Donc 1 moins g, ça ressemble étrangement à la demi-caractéristique de l'air. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi c'est 1 moins g et pas 2 moins 2g. Mais bon, voilà, mais ça a la même structure en fait que le résultat qui était dans le transparent précédent. D'accord ? Et Donc Nalini a trouvé un résultat similaire et peut-être elle va peut-être parler sur les graphes. Je sais pas, c'est des graphes métriques ou c'est des graphes discrets, voilà, des graphes discrets. Et je crois qu'ici c'est des graphes métriques, voilà. Mais c'est le même jeu, quoi. Donc dans cet exposé, je vais vous parler d'un cadre où c'est encore plus simple. Il n'y a pas de surface à courbure négative. En fait, on est dans un monde tout plat, donc on est dans le tore plat. Et donc c'est le travail en collaboration avec Yannick, Mathieu et Gabriel. Dans le tore plat, on se donne deux convexes, K1 et K2. Et ces deux convexes, leurs bords, ils sont strictement convexes et analytiques. Et je vais vous expliquer à la fin de l'exposé pourquoi j'ai besoin de l'hypothèse d'analyticité. Et les objets qu'on va compter dans notre série de points carrés, donc, qui est déjà écrite au tableau, c'est les perpendiculaires communes aux bords de K1 et K2. Donc voilà, c'est la série de points carrés. Maintenant, c'est très facile de montrer qu'elle est holomorphe en partie réelle de S et strictement supérieure à 0. C'est parce que là, les objets que vous comptez, ils sont à croissance polynomiale. Et l'exponentielle, ça bat le polynôme. Oui.
Est-ce que c'est grave qu'elle arrive à compter ?
C'est une super bonne question. Ouais, je crois que c'est clair. Mais là, si tu me demandes d'écrire une preuve, ça va être compliqué. Mais je, ouais, je crois que c'est clair. Okay. Oui, de perpendiculaire. Oui. Attends. Voilà. Pour l'imagination, tu fais grossir K1 par le flot géodésique. Donc ça fait un front qui augmente comme ça. Et tu es d'accord, ça va rencontrer K2 à un moment. Et comme les choses sont convexes, ça va rencontrer comme ça. Je ne sais pas comment le dire comme ça tout de suite très bien en maths, mais ça va le rencontrer comme ça. Et donc, c'est le premier instant où il y a une perpendiculaire commune. Et comme c'est un tore, ça grossit, ça revient. Et donc, ça va le rencontrer avec des points de tangence à chaque fois, la première fois que ça les rencontre, et c'est à chaque fois des perpendiculaires communes. Donc, bon, c'est pas vraiment une preuve, mais
sinon, si on relève tout le dessin dans R2...
Ah, c'est des trucs avec des points entiers, voilà.
Où tu relèves tout dans R2 et tu traces toutes les perpendiculaires...
Voilà.
Après, t'as pas le droit... Faut pas qu'elles traversent... Oui.
Elles ont le droit de traverser, hein. Mes dessins sont très trompeurs. C'est pas des obstacles.
Ah, d'accord.
Ils ont le droit d'être traversés par des rayons violets gamma, voilà.
Et donc, si elle arrive du coup de l'autre côté, tu comptes aussi. Si elle arrive pas, elle est perpendiculaire.
Ça, j'avoue, j'ai pas été précis, mais normalement, il faut spécifier une normale extérieure.
C'est des courbes,
une normale de l'autre côté. Et c'est normal orienté, quoi. J'ai été volontairement pas précis. Par exemple, là, ici, on spécifie normal comme ça. En fait, on compterait comme ça. Par exemple, ça compte, ça.
Ça compte.
Ouais, ça compte. Et là, l'objet, il est traversé par un rayon violet, là. Donc, OK. Et donc, ce qu'on est en cours, donc c'est un travail en cours, on n'est pas encore publié. Et donc, ce qui semble, le phénomène qu'on est en train de montrer, il est le suivant, c'est que là, vous êtes sur le tore, donc je dois définir un ensemble, juste avant que je vous énonce le théorème. Donc, vous regardez l'ensemble des normes de xi pour xi des vecteurs à coefficients entiers. Et ensuite, vous faites plus ou moins xi. Donc ça, vous voyez, c'est un ensemble qui est sur la droite imaginaire. C'est l'ensemble que j'ai représenté ici dans le dessin. Et j'ai les points rouges. Voilà, c'est les éléments. Vous devez imaginer que c'est les éléments de grand lambda. J'aimerais juste préciser, grand lambda n'a pas de structure de réseau. Même si peut-être le dessin, il n'est pas assez... clair, mais c'est pas un réseau, hein, parce que c'est des normes de vecteurs entiers. Ça n'a pas de structure comme dans la formule de Poisson, quoi. Et ce qu'on montre, c'est que près de, par exemple, d'un point Je reviens au transparent précédent, si vous me permettez. Si vous prenez un point qui n'est pas zéro, on montre que la fonction zeta, elle a un développement suivant. Elle s'écrit comme 1 sur s moins i module de xi à une puissance. Et cette puissance, quand d, il est pair, cette puissance, elle est demi-entière. Et quand d, il est impair, c'est une bonne puissance entière au dénominateur. Plus un terme en log ici, si n est impair. Et si n, il est pair, il n'y a pas de terme en log. D'accord ? Et ici, il y a un développement où les termes AI, BI, ils dépendent de vos deux convexes et ils dépendent du xi. Le xi ici, c'est le xi près duquel on regarde. Hein, je rappelle, on regarde près d'un point xi, cette fonction zeta. D'accord ? On regarde en s, près de s égale xi. Et près de s égale 0, le comportement, il est un peu différent. On n'a pas de log et on n'a pas de puissance demi-entière dans le cas où d il est pair. Et on a une sorte de un peu comme une sorte de pôle. On a des résidus comme ça là, a l sur s puissance l, où les a l ils s'expriment en termes de certaines fonctions géométriques associées au convexe K1, K2, qu'on appelle les volumes mixtes. Mais bon, là, dans cet exposé, je ne veux pas passer trop de temps sur ces volumes mixtes. J'aimerais vous expliquer plus la structure, en fait, près des points xi pour xi non nul. Et j'aimerais aussi insister que ce prolongement, ça, ce n'est pas un développement asymptotique. C'est une fonction holomorphe multivaluée. Alors, laissez-moi vous expliquer, avec des dessins. Donc, vous imaginez ici, ça, c'est un point moins xi, ça, c'est un point xi, ça, c'est la droite imaginaire. Et par exemple, que d, il est pair. Dans ce cas-là, en fait, la fonction zeta, elle est holomorphe sur le disque pointé, sauf que quand vous faites un tour du disque pointé, eh bien, la valeur, elle change exactement comme, je vous donne tout de suite un exemple, comme lorsque vous regardez la fonction racine de S près de 0. Hein, donc souvent dans les cours d'analyse complexe, on nous dit 0, il faut enlever une demi-droite et on n'a pas le droit de faire le tour de la demi-droite. Mais si on s'autorise à faire le tour de la demi-droite, on se prend un moins. Hein, donc, donc c'est ça qu'on appelle une fonction holomorphe multivaluée. Ici, elle peut prendre que deux valeurs. Et dans le cas où D, il est impair, au-dessus de chaque point dans xi, sauf 0, il peut prendre une infinité de valeurs. Ça, c'est un peu comme la surface de Riemann du logarithme. D'accord ? C'est dû au terme de log ici. Et donc, on montre donc, qu'on a un prolongement analytique multivalué sur un voisinage, hein, un delta voisinage de cette droite imaginaire, avec une infinité de points de ramification. Autour de chaque point rouge, vous pouvez avoir de la ramification. Donc, ouais, il faut imaginer, quoi. Faut un peu imaginer cette structure assez compliquée. Donc, ce n'est pas un prolongement méromorphe habituel. Et voilà, j'aimerais juste faire une remarque. Donc, la classe des fonctions multivaluées dans laquelle vivent zeta, dans notre situation, en fait, c'est une classe qui a été défini dans les années 60 par un thésard de Gerding, de Nielsen. Et puis ensuite, après, cette définition de cette classe de fonctions, là, qui sont holomorphes et multivaluées, elle a été popularisée par Deligne dans les années 70. Et en gros, une fonction de la classe de Nielsen, c'est une fonction, par exemple, près de zéro, c'est une fonction qui a croissance modérée près de zéro, et tel que les déterminations, en fait, l'espace vectoriel des déterminations de cette fonction est fini. Et en fait, on peut montrer, bon, si lire cette ligne, c'est trop fatigant, en fait, vous regardez en dessous, en fait, on peut montrer que ça, c'est plus ou moins équivalent à ce que vous avez une somme finie de A, I, Z, donc ça, c'est des fonctions holomorphes. Log de Z a des puissances entières, et Z a des puissances complexes. D'accord ? Donc ces fonctions, la classe de Nielsen, elles ont des très très jolies propriétés naturelles par rapport aux opérations de l'analyse, quand on les dérive, quand on les multiplie, quand on fait des intégrations partielles, et elles ont beaucoup d'applications en EDP, dans l'étude des intégrales oscillantes, des intégrales.
Mais pardon, les MUI, c'est vraiment des nombres complexes quelconques ou...
Ouais, les MUI, c'est des nombres complexes quelconques. sauf si le truc que j'ai recopié...
Du coup, Z à la puissance mu i...
Mais ici, moi, c'est D1,5.
Ouais, ouais. Mais justement, tu dis, si mu i, c'est n'importe quel nombre complet, ça veut dire quoi?
Je sais pas, j'ai recopié trop vite. Attends.
Parce que du coup, il y a un problème de détermination qui est encore pire. Hein,
ouais, bah c'est ça, il y a un problème de détermination. Ah, ouais. Mais ce qui compte, c'est que cette forme-là te garantit que l'espace vectoriel des déterminations est de dimension finie.
Ouais, mais donc il faut peut-être une décondition sur mu i, alors.
Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être rationnel. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, ça. C'est vrai que c'est bizarre. Je crois que c'est... Non, il y a peut-être une typo, là. Non, il y a peut-être une condition peut-être de rationalité sur les mu i. Bon, disons un nombre rationnel. Comme ça, on est sûr que ça, c'est de détermination finie. Et donc, maintenant, je vais un peu vous esquisser la preuve de ce théorème. Donc, l'idée, en fait, derrière la preuve de ce théorème, c'est de reformuler votre problème de comptage, là, qui est un problème, a priori, qui est statique, en quelque chose de plus dynamique. Donc, en fait, on va essayer d'utiliser le flow géodésique, parce que derrière ces perpendiculaires communes là, que vous voyez dans les dessins, en fait, il y a le flow géodésique. Donc là, je vais vous expliquer déjà en une phrase la stratégie qu'on va adopter. On va pousser notre problème dans l'espace des phases, et puis ensuite, après, on va chercher à écrire cette fonction de zeta en faisant apparaître des objets fonctionnels. Un peu comme dans le cours de Nalini, on va essayer de formuler ça comme des identités avec des corrélateurs dynamiques. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a formulé ça de façon fonctionnelle, on va faire apparaître des opérateurs sur lesquels on va chercher à dire des choses. On va chercher à étudier les propriétés spectrales de certains opérateurs. Donc en fait, comme dans le cours de Nalini, on va travailler dans l'espace des phases, donc dans le cotangent unitaire du tore, S étoile de TD. Donc vous imaginez que c'est juste TD, le tore, croit la sphère avec des coordonnées x, θ, x pour la position dans le tore, θ pour la position dans la fibre. Et le flow géodésique dans l'espace des phases, il s'écrit très simplement parce que c'est un tore plat, vous voyez. Donc le flow géodésique en temps t partant du point x, θ, c'est juste x plus tθ. Vous faites la translation dans la variable de base et la variable de fibre elle reste inchangée. Donc ici, j'ai essayé de représenter à quoi ça ressemble le flow géodésique dans le tore. Et le générateur du flow géodésique, ça s'écrit θi ddxi, θ scalaire dx. Et donc lorsque vous faites agir le flow par pullback sur les fonctions, l'action est très simple, ça devient, quand vous faites agir sur une fonction f en xθ, ça devient x plus tθ. La fibre est inchangée, et cette action, elle s'étend également aux distributions. Et ce qu'on peut noter, en fait, c'est que la distribution qu'on a transportée par le flow géodésique, en fait, toute l'idée, c'est comme ça, c'est de travailler en haut, dans l'espace des phases, de prendre des objets fonctionnels, des courants, des distributions dans l'espace des phases, et ensuite de les transporter par le flow géodésique. Exactement comme les états résonnants là, dans le cours de Nalini qu'on a poussé par les flots géodésiques ou orocycliques. Ici, on va travailler que avec le flot géodésique. Donc, ce qu'on va définir, c'est... Vous vous souvenez, en bas, vous aviez deux convexes, C1 et C2. Et ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder la normale unitaire aux deux convexes. Donc, la normale unitaire, c'est l'ensemble des xθ dans l'espace des phases, tel que le point X, c'est-à-dire le point, la coordonnée dans la base, elle appartient à l'hypersurface convexe, et le θ en haut, le vecteur θ, lui, il doit être perpendiculaire au convexe en X. Donc c'est le θ normal unitaire à notre convexe. Donc cette normale unitaire, je l'appelle sigma, elle vit en haut. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pousser en fait, la normale sigma par le flow géodésique. Donc c'est cette idée de pousser en fait une sous-variété par un flow et ensuite de l'intersecter avec d'autres sous-variétés, c'est pas du tout une idée nouvelle. Donc c'est une idée, en tout cas, de ce que à ma connaissance, ça remonte à la thèse, ce genre d'idées, elles sont déjà mises en œuvre dans la thèse de Margulis en 69. Et nous, en fait, c'est une sorte de reformulation de ce qu'il faisait, mais en termes de courant. Donc ce que je vais considérer, c'est le courant d'intégration sur la sous-variété sigma i. Donc un courant, c'est une distribution dont les coefficients sont des formes différentielles. D'accord, c'est comme des fonctions delta, si vous voulez, portées par des sous-variétés. Ensuite, le problème de comptage en bas, hein, on faisait un comptage en bas, on va essayer de le reformuler comme un problème de comptage en haut. On va prendre cette sous-variété sigma 1, on va la pousser par le flot. Lorsque vous allez la pousser par le flot, ça va dessiner une sorte de tube de flot, une sous-variété de dimension n qui vit en haut, dans le cotangent unitaire. Et à chaque fois que cette sous-variété de dimension n, en violet là, elle va intersecter sigma 2, c'est qu'en fait, en bas, vous aviez en fait un segment perpendiculaire qui est parti de K1 et qui est arrivé en K2. Donc vous pouvez interpréter le problème de comptage comme un problème d'intersection dans le cotangent unitaire. D'accord ? Donc là, je vous ai représenté le dessin en bas, et ici, c'est ce qui se passe en haut. D'accord ? Et nous, on travaille en haut. Ensuite, l'étape clé, c'est d'essayer de représenter par une formule intégrale le courant d'intégration sur le tube de flot en violet. Il faut essayer de lui donner une formule, quoi, d'en donner une formule avec des objets de l'analyse. Et donc la formule qu'on avait trouvée dans notre travail avec Gabriel, c'est la suivante. Hein, c'est l'intégrale de 0 à t du courant en sigma 1 qu'on a poussé par le flot et qu'on intègre de 0 jusqu'à t. Et ici, il y a une contraction avec le champ de vecteur v. Et donc dans le transparent suivant, je donne une esquisse de preuve, mais c'est pas crucial en fait si vous comprenez pas exactement ces lignes-là, mais si vous êtes un peu familier avec le calcul de Cartan, j'aimerais vous convaincre que le membre de droite représente bien le membre de gauche. Donc quand vous regardez le bord de ce tube de flot, vous voyez le bord de ce tube de flot, c'est sigma 1 en temps t moins sigma 1. Et donc on va calculer le bord du membre de droite. Et ensuite, en utilisant la formule de Cartan, ça c'est la formule magique de Cartan, que la dérivée de l'i, c'est di plus id, et en utilisant aussi le théorème fondamental du calcul, en fait, vous pouvez en déduire que le bord de l'objet analytique de droite, c'est bien sigma 1 propagé en temps t moins sigma 1. Et ensuite, vous pouvez reformuler la fonction de zeta. En fait, en remplaçant, en fait, vous prenez ça, c'est la formule qui vous représente le courant d'intégration sur le tube de flot. Vous l'intersectez avec sigma 2, ça va vous compter les points d'intersection au-dessus, et vous faites une pondération avec le e-ts ici. Parce que dans la formule pour la série de points carrés, il y a une somme sur les exponentielles de moins s l gamma. D'accord ? Donc je vous réécris ça au tableau. Ça, c'est formule. Donc on a cette intégrale de 0 à t, on a notre sous-variété sigma 1, on la pousse par le flot, il y a une contraction avec IV, ensuite après on intersecte ça avec sigma 2, et ici on doit mettre une pondération e-ts parce qu'il y a le paramètre s, voilà, il y a le paramètre s qui vient de la fonction de zeta. Et cette formule, en fait, elle vient du fait que il faut l'intégrer de 0 à plus l'infini. En fait, j'ai formellement inversé l'intégrale qui était là avec l'appariement distributionnel. Et j'ai formellement laissé le temps grand T tendre vers l'infini. Et ces étapes, elles sont justifiées parce que dans notre situation, à cause de la convexité des deux corps, vous avez de la transversalité. Et donc, pour partie réelle de S assez grand, vous avez le droit, en fait, de faire ces manipulations. Et donc, l'observation cruciale, c'est que, bon, on va oublier les courants, tout ça, c'est trop compliqué, les courants, tout ça, mais vous savez, quand vous avez intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle TV, exponentielle moins TS, DT, et que vous imaginez que V, c'est une matrice, ben ça, on peut écrire que si partie réelle de S est suffisamment grande, ça, c'est V plus S à la puissance moins 1. Hein, ça, c'est une identité. Pour la comprendre, il faut juste imaginer que V, c'est une matrice. Donc formellement, ça, c'est l'identité qui vous exprime que quand on intègre le semi-groupe, on obtient la résolvante en fait, d'un opérateur V ou d'une matrice V. Et donc ici, formellement, si on arrive à justifier certaines étapes, on est capable d'exprimer en fait, la fonction de zeta qui nous intéresse en termes de la résolvante de V. Et je vous rappelle, V, c'est le générateur du flot géodésique. V, c'est le champ de vecteur θ scalaire dx, qui est un champ de vecteur qui vit dans l'espace des phases. Donc voilà, donc ce qu'on a, jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on était parti de ce problème de comptage et on a fait un massage. Et on lui a fait un massage pour le reformuler comme un problème d'analyse fonctionnelle, où maintenant il s'agit d'étudier les propriétés analytiques de cette résolvante, hein, de V plus S à la puissance moins 1. Et donc, c'est à ce moment qu'on va utiliser la théorie des séries de Fourier. Donc, pour notre problème, en fait, on s'est inspiré de travaux de la thèse de Degon de 1986. Donc, lui, dans sa thèse, il s'intéressait à des... Je crois que c'est des problèmes qu'on appelle de la théorie des équations cinétiques. Donc, il s'intéressait à l'équation de Vlasov linéarisée. Et voilà, la remarque centrale, voilà, c'est un peu le message à ramener chez soi, là. C'est que dans le cours de Nalini, ce qui était responsable des résonances de Ruelle que vous avez vues dans le cours de Nalini, c'est l'hyperbolicité du flot géodésique dans le cotangent des surfaces de courbure négative. Hein, le fait qu'on soit exponentiellement expansif dans certaines directions et exponentiellement contractant. Là, ici, vous voyez, pour le flot géodésique sur le tore plat, du fait qu'il est plat, c'est mort. Il n'y a plus d'hyperbolicité. Et donc, ce qui va remplacer l'hyperbolicité, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'hypothèse d'analyticité. Et ça, c'est... Bon, ça, je ne le comprends pas encore très, très bien, mais c'est déjà assez clairement dit, en fait, dans l'article de Degon, qu'il faut utiliser de l'analyticité pour faire apparaître des phénomènes, les mêmes phénomènes qu'on verrait quand on fait les résonances de Ruelle pour les flots anosophes. Et de ce que je comprends, cette analyticité, en fait, après, elle a été aussi réexploitée dans d'autres travaux en équations cinétiques. Donc, par exemple, dans les travaux de Muovilani, ils utilisent aussi l'analyticité. Ça joue un rôle important. Donc, voilà. Donc, l'idée, elle est très très simple. L'idée qui apparaît hein, dans le papier de Degon, c'est de... Vous avez des fonctions qui, hein, dans l'espace des phases, vous imaginez que vos courants ou vos fonctions, elles dépendent de x et de θ. Je vous rappelle, x, c'est la position dans le tore, et θ, c'est la variable angulaire dans la fibre. Donc j'appelle U1, pour simplifier mes notations, le courant sigma contracté avec V. J'appelle U2, le courant sigma 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire cet appariement, là, donc cette expression-là, avec la résolvante. Là, je vais faire un peu au tableau, là. Je vais vous montrer. Donc ici, donc je ne vous ai pas trop justifié, mais je vous ai dit que formellement, maintenant, je peux remplacer cette expression, où j'intègre de 0 à plus l'infini le E-TV, E-TS, je peux le remplacer par la résolvante. Donc je fais apparaître IV avec la résolvante du flot géodésique. Donc maintenant, il n'y a plus d'intégrale en temps. Maintenant, je travaille avec cet objet-là. D'accord ? Et maintenant, mes sigma 1, sigma 2, maintenant, je vais introduire des coordonnées hein, pour rendre concret le discours. Là, j'ai celui-là, maintenant, je l'appelle U2, pour simplifier. Et j'enlève les crochets, comme ça ressemble à des fonctions, on a moins peur. Là, U1, j'enlève la contraction avec IV. Et donc maintenant, vous avez U2 x θ avec le champ de vecteur là, θ scalaire dx plus s moins 1 fois U1 de x θ dx, dd moins 1 θ. Et l'idée clé, c'est de faire une transformée de Fourier seulement en la variable x. Donc maintenant, je fais ma transformée de Fourier. Donc comme d'habitude, je mets un chapeau. Maintenant, je mets un autre chapeau ici, je mets moins xi, je fais la somme. Donc, il n'y a plus. Maintenant, vous n'avez plus l'intégrale sur les x dans le tore. ça devient en fait une somme sur les modes de Fourier, puisqu'on fait la transformée de Fourier seulement en espace et on laisse les fibres telles qu'elles sont. Et en fait, on a transformé en fait notre accouplement entre U2 et V plus S moins 1 de U1, qui est un accouplement qui vit dans le cotangent du tore, comme une série, une somme infinie d'intégrales sur la sphère. Hein, donc maintenant, c'est des intégrales sur la sphère. Excusez-moi, c'est I tétaxi maintenant. Puisqu'on sait que dériver, quand vous faites la transformée de Fourier, ça devient la multiplication par I tétaxi.
Et c'est là le... Excuse-moi, à ce stade, normalement, là, le U1 et le U2, tu as besoin de dire dans quel espace de fonctionnel
ouais, bien
tu
sûr,
travailles,
bien
mais
sûr.
Là, tu le fais pas.
Bien sûr, je le fais pas, mais l'hypothèse de convexité, elle te permet de dire que tu as le droit de faire la transformée de Fourier dans la variable X et que tu as bien quelque chose qui... Je triche. Je triche. Non, je triche. Mais je triche, j'ai raison de tricher parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, Non, c'est subtil, bien sûr, parce que c'était des courants, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Mais disons
et tu sais aussi que V plus S moins 1, si partir L de S est assez grand, tu sais aussi que ça a un sens, etc. Enfin, il n'y a pas... La résolvante, elle est... Il n'y a pas...
Ouais, je crois qu'il n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas de triche quand partir L de S, elle est strictement positive. Et là, ce que je veux faire, c'est je veux vous convaincre... de juste vous donner une idée de pourquoi vous avez ce prolongement branché autour de chaque point de ce réseau-là. Quoi ? Pardon, je n'ai pas le droit de dire réseau. De l'ensemble grand lambda, là. I fois module de xi. Donc j'essaie de... Voilà, donc je me suis ramené à ça en trichant, parce que, ouais, comme Nalini l'a fait remarquer, c'est des courants, donc il faut faire très attention. Mais faisons comme si c'était des fonctions analytiques de la variable... analytique de la variable verticale, là, θ, parce que c'est là qu'on va utiliser l'analyticité. Donc vous voyez, regardez, il faut contempler très fort cette intégrale, oubliez la somme sur les xi. Quand vous regardez cette chose-là, en fait, vous voyez que pour chaque mode de Fourier xi, en fait, l'opérateur qui compte, et là, il faut utiliser de la couleur, parce que c'est l'opérateur le important, c'est l'opérateur qui a de multiplication par la fonction qui a θ sur la sphère associe xi scalaire θ. Donc ça, c'est bêtement la fonction, c'est une fonction hauteur sur la sphère, d'accord ? Et donc, ce que vous êtes en train de regarder ici, en termes d'analyse, si on est analyste, c'est qu'on est en train de regarder la résolvante de l'opérateur de multiplication par la fonction hauteur. Vous voyez hein, parce que vous avez, donc vous avez votre fonction hauteur, là, ici, et ensuite, vous avez, donc, on définit m de xi, qui est cet opérateur qui a phi associe xi scalaire theta, phi theta, voilà, la fonction xi scalaire phi. Donc ça, c'est un opérateur de multiplication, et le fait que vous devez l'inverser, en fait, ça fait penser qu'en fait, on est en train d'étudier une infinité de résolvantes d'opérateurs de multiplication. Et donc maintenant, on est ramené à un problème que je peux énoncer de façon très simple. C'est étant donné en fait une fonction, je vais l'énoncer de façon un peu abstraite, et puis ensuite après, on va discuter de comment je vais vous donner un toy modèle puis je vais conclure quoi. Vous avez une fonction en fait la fonction hauteur, c'est une fonction de Morse analytique sur la sphère et vous voyez elle a deux points critiques cette fonction, elle a le point critique au pôle nord et le point critique au pôle sud, d'accord. Et ce qui m'intéresse c'est le spectre de cet opérateur de multiplication par la fonction de Morse. Vous savez, au début, il faut être naïf, il faut commencer... au début, si on parle de spectre, il faut dire sur quel espace. Donc le premier espace sur lequel on voudrait dire quelque chose, c'est on va commencer avec L2. C'est exactement comme dans le cours de Nalini aujourd'hui. Tout à l'heure, on a regardé l'opérateur x dx plus ou moins shifté par 1,5. Et au début, on l'a fait agir sur L2 de R. Et ce qu'on voit, c'est que ici, c'est pareil, vous avez votre opérateur de multiplication, vous faites agir sur L2 de SD-1, et on sait que le spectre de cet opérateur, ça va être contenu dans l'intervalle réel inf de f sub de f. Ça va être toutes les valeurs prises par la fonction f lorsqu'on la regarde sur la sphère. D'accord ? Donc en fait, si vous regardez cet opérateur de multiplication par f sur la sphère et que vous le faites agir que sur L2, vous n'allez pas réussir à prolonger la résolvante. C'est-à-dire que la résolvante, elle va être... Donc là, vous regardez MF moins Z moins 1. Et ça va être bien défini, par exemple, là, j'ai fait un dessin en Z. Ça va être bien défini, par exemple, quand la partie imaginaire de Z, elle est strictement positive. Ici, il y a le inf de F. Ici, il y a le sub de F. Et vous aurez du mal, en fait, à prolonger analytiquement en Z, par exemple, dans l'intérieur de cet intervalle. Je vais mettre de la couleur ici. Si vous agissez sur les fonctions L2. Et donc maintenant, je vais essayer de motiver le mot analytique dans l'énoncé du théorème, que vraiment vous ayez une conscience forte de qu'est-ce que vous apporte l'analyticité. Donc on va faire comme Nalini aujourd'hui, au lieu de bosser dans L2, on va changer d'espace. Et en changeant d'espace, ça c'est très important, c'est l'une des idées les plus importantes dans ce sujet de l'étude des résonances de Ruelle, en changeant d'espace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévoiler du spectre. On va éliminer des... Ce qu'on va réussir à faire, c'est qu'on va faire en sorte que les éléments qui sont les nombres entre inf de f et sub de f, ils ne vont plus être, entre guillemets, dans le spectre. Et ce qui va rester, c'est seulement les valeurs critiques, en fait, de la fonction f. Donc, pour faire ça, ouais, j'ai réfléchi longtemps et j'ai trouvé un toy model. Voyez, la fonction de Morse la plus simple du monde, c'est sinus theta sur le cercle. Hein, donc, vous regardez l'opérateur de multiplication par sinus theta qui agit sur L2 de S1. Le spectre dans L2, on sait que c'est entre moins 1 et 1. Et maintenant, si par exemple, on modifie L2 de S1 et on le rend très très régulier, ça veut dire qu'on va chercher à... Au lieu de prendre des fonctions dans L2, on va prendre des fonctions analytiques. Un moyen, parmi tant d'autres, hein, mais un moyen de trouver un espace de Hilbert de fonctions analytiques, c'est de travailler sur des espaces de fonctions de Bargmann. Par exemple, vous prenez exponentielle de moins epsilon laplacien de L2. Vous voyez, vous lui appliquez le flot de la chaleur en temps epsilon, ça rend les fonctions sur le cercle violemment analytiques. Alors, je vais essayer de vous convaincre que la résolvante de l'opérateur de multiplication par sinus de θ, lorsque vous la considérez comme un opérateur qui va de l'espace de Bargmann, donc des fonctions très analytiques, vers le dual des fonctions très analytiques, donc un espace d'hyperfonction, eh bien, en fait, il va avoir un prolongement analytique pour S dans l'intervalle moins 1, 1, et ce qui va rester, c'est seulement moins 1 et plus 1. Donc pour vous convaincre de ça, vous calculez en fait cette résolvante, vous la faites agir sur deux fonctions test qui sont dans l'espace de Bargmann, donc U1 de θ, U2 de θ. Là, je vous rappelle, U1 de θ et U2 de θ, c'est des fonctions sur le cercle, mais qui sont analytiques. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut juste changer de lettre, il faut appeler θ z, d'accord ? Et il faut penser que comme maintenant vos fonctions, elles sont analytiques, elles ont un prolongement holomorphe. Et donc là, vous réécrivez ça, sinus de z moins s moins 1, u1 de z fois u2 de z dz. Et comme maintenant, l'intégrant ici, c'est une fonction holomorphe, ça aussi c'est holomorphe, vous êtes d'accord, vous avez le droit de déformer votre contour, vous avez le droit de déformer l'intervalle 0, 2 pi. Et lorsque vous déformez l'intervalle 0, 2 pi, vous avez votre intégrale entre 0, 2 pi de 1 sur sinus de z moins s fois une fonction holomorphe, fois une fonction u1 de z, u2 de z, dz, et vous voulez que votre s il s'approche d'une certaine valeur sinus de z0, par exemple. eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre intervalle d'intégration 0,2π, et ici, il y a le point z0, et vous allez déformer votre contour pour éviter z0. D'accord ? En déformant votre contour d'intégration, vous ne changez pas la valeur de l'intégrale, parce qu'on est dans le monde de l'analyse complexe, mais par contre, la valeur sinus de z0, elle ne va plus être atteinte lorsque vous intégrez sur ce contour-là. Et donc maintenant, en fait, quand vous regardez les valeurs de f sur le contour déformé, vous allez voir que vous avez créé un petit puits de sécurité ici. Donc maintenant, vous pouvez étendre votre résolvante. S, il peut prendre des valeurs ici maintenant, puisque vous avez déformé votre contour. Donc c'est exactement ça. Ce qu'on voit dans ce petit exemple jouet, c'est d'une certaine façon, c'est ce qu'on a fait dans notre situation. Donc dans notre situation, ce qui joue le rôle du cercle, c'est la sphère SD-1. On a cet opérateur de multiplication par la fonction hauteur. Et c'est là qu'on utilise le fait que nos fonctions U1 et U2, ici, là, elles sont analytiques de θ. C'est ça qui est très important. Et comme elles sont analytiques de θ, elles ont un prolongement holomorphe dans la quadrique complexe. Vous voyez, SD-1 de C, c'est la sphère, on sait que c'est x1 carré plus xd carré égale 1. Bah, la quadrique complexe, c'est juste remplacer x par la variable qu'on appelle z et faire vivre ça dans c puissance d. D'accord ? Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant, on part de cette intégrale. Donc on va faire exactement la même manip que je vous ai fait dans l'exercice indimensionnel. On renomme les objets, on leur met des tildes, mais on reste dans SD-1, d'accord ? Mais maintenant, comme on a mis des tildes, on a conscience que nos objets, ils ont une extension holomorphe dans un voisinage de la sphère réelle dans la quadrique complexe. Ensuite, on se convainc que l'intégrant ici, on peut le voir comme une forme holomorphe de degré maximal, une forme différentielle holomorphe de degré d-1. Et comme c'est une forme holomorphe de degré maximal, c'est exactement comme en analyse complexe, c'est une forme fermée. Donc en fait, on peut déformer notre contour, SD-1, vous y pensez comme à un cycle dans la quadrique complexe, et vous allez déformer votre contour. Et on déforme notre contour par le flot gradient de la partie imaginaire de la fonction de Morse. Donc c'est exactement une version un peu dit avec des mots peut-être un peu compliqués de ce que j'ai fait ici. J'ai poussé mon contour d'intégration pour me donner de l'espace pour que mes valeurs S elles puissent tendre vers ce point-là dans l'intervalle inf de F et sub de F. Et ici, on n'a que des égalités, c'est garanti par le théorème de Stokes, hein, puisqu'on déforme un cycle et on a intégré en fait une forme fermée sur un cycle qu'on déforme. Donc on n'a pas changé la valeur de l'intégrale. Et ainsi, en fait, maintenant, on a S, maintenant, il a le droit en fait, de prendre des valeurs dans l'intervalle inf de F, sub de F, puisque maintenant, on a déformé le contour par le flot gradient de la partie imaginaire de F. Ah, donc ça, c'est l'idée centrale qui nous permet en fait, de faire ce prolongement, une des idées qui nous permet de faire ce prolongement holomorphe multivarié. Donc je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.